pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Wid le Cher, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh,
oh.
L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte du folklore sicilien intitulé « Don Giovanni de la Fortuna », issu du recueil « Sorciers et magiciens » de Fiona Waters et Fabien Negrin. Cet instant sera suivi de la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Viendra ensuite la rubrique « Environnement » où nous entendrons « Une utopie en construction » de Lyle Watson, le biologiste, au sujet des liens entre les hommes et la Terre, la parole de Glenn Peters à propos des énergies renouvelables et la recette éco-geste pour réaliser un nettoyant super puissant pour barbecue. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons licenciement pour motif personnel. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti. Vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Don Giovanni de la Fortuna, conte du folklore sicilien, issu du recueil Sorciers et magiciens de Fiona Waters et Fabien Negrin.
Il était une fois un jeune et riche Sicilien qui s'appelait Don Giovanni de la Fortuna. De nature dépensière, il gaspilla vite tout son argent et quand il ne lui resta plus une seule pièce d'or, il dut renoncer à ses beaux vêtements de brocart et partir mendier sur les routes. On ne sait combien de temps cette situation aurait duré si, par hasard, il n'avait rencontré un sorcier. Or, celui-ci était l'allié du diable, et ensemble, ils cherchaient des âmes à acheter. Aussi, quand il entendit l'histoire du jeune homme, le sorcier se frotta-t-il les mains, se réjouissant à l'idée d'avoir trouvé un nouveau nigaud. « Je peux te rendre plus riche que dans tes rêves les plus fous, » fit le sorcier d'une voix enjôleuse. « Si riche que tu ne manqueras plus jamais de rien. » Mais le jeune homme, souvenez-vous, était sicilien et il n'était pas aussi naïf qu'il en avait l'air. Il fit donc semblant de se laisser berner. « Cela me paraît magnifique, mais que dois-je faire en échange ? » s'enquit-il prudemment. « Oh, rien vraiment, » dit le sorcier d'un ton désinvolte. « Je vais te remettre une bourse magique et il te suffira de dire « Chère bourse, j'ai besoin d'argent. » pour qu'elle te remplisse les mains jusqu'à ce que tu lui dises d'arrêter.
« Merveilleux !
s'écria le jeune homme en saisissant la bourse. « Oh, il y a juste une chose que je dois mentionner, » reprit le sorcier en souriant. « Tu ne dois pas te laver, ni te peigner, ni te raser, ni même changer de vêtements pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours, afin que la magie puisse opérer. Si tu fais cela, la bourse sera à toi pour toujours. » Le sorcier pensait qu'une telle perspective effraierait le jeune homme. Mais Don Giovanni était d'une autre trempe. Il prit la bourse d'une main ferme et salua le sorcier avant de s'en aller à grands pas. La bourse remplit son office et Don Giovanni ne tarda pas à redevenir riche. Bien sûr, il n'était pas très agréable à fréquenter car le temps passant, il portait ses cheveux en broussailles, sa barbe atteignait presque ses genoux, ses vêtements empestés et pis que tout, il avait des puces. Toutefois, il ne s'en souciait guère, car ses poches en guenilles enfermaient quantité de pièces d'or. Or, un matin, il passa devant une villa particulièrement belle. Le soleil faisait chatoyer la cour de marbre poli, les fontaines scintillaient et d'immenses pots de fleurs exotiques emplissaient l'air de leurs parfums grisants. Don Giovanni s'assit sur les marches et tout en s'épouillant, écouta les abeilles bourdonner en butinant les fleurs. Mais bientôt, le maître de maison apparut et gardant prudemment ses distances, lui cria « Va-t'en, sale mendiant, tu empestes et tes puces vont envahir ma maison !»«
Inutile de vous montrer si brutal, » répliqua Don Giovanni avec emportement. « Je ne suis pas un mendiant. Je pourrais acheter 10 villas comme celle-ci si je le voulais. »
Croyant qu'il plaisantait, le maître de maison s'exclama.
« Je vais convoquer mon notaire tout de suite et lui demander de rédiger le contrat de vente. »
Il pensait que cela ferait fuir le mendiant, mais, comme nous le savons, Don Giovanni était d'une autre trempe. Aussi, quand le notaire eut rédigé le contrat, Don Giovanni promit-il de revenir le lendemain avec l'argent. Il se rendit à l'auberge voisine et s'enferma dans une chambre avec la bourse magique. La pièce fut tellement remplie de pièces d'or que le jeune homme eut du mal à trouver un coin pour dormir. Le lendemain, il se présenta à la villa avec une charrette débordante de sacs d'or. Un contrat est un contrat, surtout pour un Sicilien, et la villa devint sa propriété. C'est là qu'il vécut, empestant chaque jour davantage. Une année passa, puis 2, puis 3. Bientôt, Don Giovanni aurait satisfait aux exigences du sorcier et pourrait profiter du reste de sa vie. Mais les choses ne sont jamais aussi simples. Le roi qui guerroyait sans cesse avait besoin d'argent pour payer ses soldats. Et il entendit parler de l'immense fortune de Don Giovanni. Il lui envoya un message pour lui emprunter une somme importante. Vous pouvez imaginer la satisfaction du roi quand un immense chariot arriva au palais chargé de plus d'or qu'il n'en avait demandé. Le roi se servit selon ses besoins et renvoya le surplus que Don Giovanni refusa, disant qu'il n'avait que faire de cette menue monnaie. Le roi, de plus en plus étonné, en parla à la reine.
« Ce Don Giovanni est non seulement riche au-delà de toute imagination, c'est aussi un gentilhomme. J'aimerais lui offrir la main de notre fille aînée. »
C'est ainsi que les choses se passaient en ce temps-là. Don Giovanni fut ravi. Quelle chance extraordinaire il avait! Le roi demanda son portrait afin que la princesse pût contempler son futur époux. Et Don Giovanni le lui fit parvenir en même temps que son consentement au mariage. Cependant, en le voyant, la princesse poussa un cri et s'évanouit. La reine lui fit respirer des sels, puis, apercevant le portrait à son tour, elle hurla au roi.
« Notre fille ne peut épouser cet horrible mendiant !»«
Mais ma chère, comment pouvais-je savoir que Don Giovanni avait cet aspect ? J'ai donné ma parole, le mariage doit avoir lieu. »
La princesse s'arracha les cheveux et se mit à trépigner.
« Jamais, jamais je n'épouserai cette répugnante créature !»
C'est alors qu'une voix calme se fit entendre. C'était la princesse cadette, bien moins gâtée que son aînée. « Père, vous devez bien sûr tenir parole. J'épouserai Don Giovanni de la Fortuna. Qui sait ? Peut-être pourrais-je le persuader de prendre un bain de temps en temps. » Il en alla donc ainsi. Le roi était content, la reine pensait que sa cadette avait perdu la raison mais était soulagée qu'une solution ait été trouvée. L'aînée se moquait sans cesse de sa sœur
Et bien entendu, Don Giovanni était ravi car pour lui, une princesse en valait une autre. Pour parfaire son bonheur, les 3 ans, 3 mois et 3 jours arrivèrent à leur fin. Le sorcier apparut soudain au matin du 4e jour de fort méchante humeur. Non seulement il avait perdu sa bourse magique, mais il n'avait pas d'âme à offrir au diable. Toutefois, un contrat est un contrat, surtout pour un Sicilien. Et il dut donc libérer Don Giovanni de la Fortuna de son vœu de saleté. Imaginez les préparatifs. Don Giovanni engagea le meilleur barbier et le meilleur tailleur du pays. Il prit 20 bains en un jour et 20 autres le jour suivant. Il utilisa assez de savon pour laver une armée entière et versa dans l'eau 2 pleins flacons d'huile parfumée. Puis, paré de superbes habits neufs, il se mit en route vers le palais, escorté d'une multitude de serviteurs et de musiciens, suivis à distance par le sorcier bougonnant. La jeune princesse sourit tranquillement en découvrant que ce jeune homme était Don Giovanni de la Fortuna. Son aînée fut tellement furieuse qu'elle en mourut de rage, au grand plaisir du sorcier qui eut, en fin de compte, une âme à donner au diable. Don Giovanni de la Fortuna renonça à ses manières dépensières et à la mort du roi, il lui succéda. Dans le royaume, personne ne manqua plus jamais de rien, car Don Giovanni partageait sa bourse magique avec tous, depuis sa jolie princesse jusqu'au plus efflanqué des chats de ferme.
Allumeurs de réverbères.
Tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants, avec un grand R.
Oh! Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, ont été proclamés comme la plus haute aspiration de l'homme, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée générale proclame
la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ses droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11. Petit 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Petit 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Petit 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14. Petit 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Petit 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15. Petit 1. Tout individu a droit à une nationalité. Petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Article 16. Petit 1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Petit 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Petit 3. la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 17, petit 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Petit 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20, petit 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Petit 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21. Petit 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Petit 2. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Petit 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23. Petit 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Petit 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Petit 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale. Petit 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25. Petit 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment par l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Petit 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26. Petit 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites. Petit 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Petit 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27. Petit 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Petit 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28. Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver un plein effet. Article 29. Petit 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Petit 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Petit 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Allumeurs de réverbères.
Glenn Peters, extrait de L'avènement des énergies renouvelables. La progression de la crise climatique ne nous laisse pas le temps d'observer la lente sortie mondiale des énergies fossiles. Le simple constat mathématique, présenté sous l'angle du budget carbone, montre qu'on ne pourra utiliser des combustibles fossiles que pendant quelques décennies supplémentaires, jusqu'en 2050 environ, à moins que des technologies soient mises au point pour éviter l'émission de CO2 due aux énergies fossiles, captage et stockage de carbone, ou en prélevant le CO2 de l'atmosphère. Aucune de ces deux technologies n'est fonctionnelle à ce jour. Et comme les usines ou les centrales alimentées aux combustibles fossiles ont une durée de vie de 50 ans ou plus, ça signifie que les infrastructures construites actuellement ou récemment dans les pays à revenus moyens ou faibles devront être mises à l'arrêt avant leur fin de vie. Si les transitions énergétiques ont toujours été lentes, ce n'est pas une fatalité. Les mouvements sociaux et politiques peuvent s'associer au développement technologique afin d'accélérer l'indispensable transition énergétique. Les outils de base existent. Le monde sait créer de l'électricité grâce au solaire et à l'éolien, stocker l'énergie dans des batteries ou de l'hydrogène et créer des transports non polluants. Il faut toutefois noter que dépolluer le système énergétique n'est pas uniquement un problème technique. Ça ne se résume pas à arrêter de brûler des énergies fossiles et à les remplacer par des sources renouvelables. Chaque aspect du système de production sur lequel repose notre vie est inséparable de la production d'énergie et donc des émissions de CO2, de la simple communication aux aliments essentiels en passant par le logement. Et même les nouvelles sources d'énergie ont des coûts environnementaux et entraînent des émissions. Nous pouvons utiliser de l'électricité, de l'hydrogène ou des biocarburants pour faire rouler nos véhicules, par exemple, mais les trois sont susceptibles de créer des émissions considérables pendant leur production ou leur acheminement. Le solaire et l'éolien ne produisent aucune émission lorsqu'ils fonctionnent, mais leur fabrication consomme de l'énergie. Résoudre le problème climatique exige par conséquent d'adopter une perspective systémique. la terre, des arbres qui portent des fruits. Extrait de « Je reviens de l'inconnu » de Lyle Watson. Il existe partout dans le monde des lieux particuliers comme Kessarian, qui, de la vie générale, inspirent plus que d'autres. Le sanctuaire de Delphes, le temple de Baalbek, la base de Ayers Rock en Australie, le sommet de Glastonbury Tor en Angleterre en sont quelques exemples. Ces lieux n'ont aucun trait géologique ou géographique en commun, mais tous sont depuis longtemps renommés pour leur état de grâce et leur mystère. Ils sont devenus des lieux sacrés, reconnus par les chamans et les sorciers, visités par les druides et les bardes, hantés par les ermites et les mystiques. Beaucoup furent ornés d'amulettes, puis rehaussés de temples fréquentés par les prêtres astronomes et finalement surmontés de cathédrales chrétiennes. Leur influence reste intacte. Ils continuent de délivrer à travers le temps un message que certains individus sont capables de percevoir grâce à quelques fonctions biologiques fondamentales. Les Chinois croient que leur paysage est irrigué par un réseau de canaux invisibles qui véhiculent des courants opposés. Ces courants s'identifient pour eux aux esprits du tigre blanc et du dragon bleu. Ceux qui pratiquent l'art du feng shui s'emploient à prendre le pouls de ces forces cachées pour décider à quel endroit on doit construire une maison ou enterrer un ancêtre avec le maximum d'avantages tout en préservant l'harmonie du paysage. La notion d'harmonie est essentielle. Ceux qui vivent en contact étroit avec leur milieu ne cherchent pas à contrôler l'environnement. L'accent est toujours mis sur les efforts à entreprendre pour détruire ce qui sépare l'homme de la nature, pour s'adapter au système et ne faire plus qu'un avec la terre et tout ce qu'elle produit. Les aborigènes d'Australie professent que chaque plante, chaque animal a un endroit où la célébration de rites appropriés libère le Kurunba, l'essence de vie, et contribue à entretenir l'ordre naturel. Ils croient que l'homme a une responsabilité particulière dans le maintien d'un univers harmonieux et qu'il peut remplir au mieux ses obligations en se référant au temps du rêve. C'est une sorte de passé mythique sans fin, au cours duquel des êtres supérieurs, aujourd'hui symbolisés par des totems tels que des kangourous ou des serpents de mer, parcouraient d'un endroit à l'autre de la terre en accomplissant de grandes actions. Les routes empruntées par ces êtres totémiques sont clairement identifiées dans la tradition. Ainsi, à chaque saison, un groupe d'aborigènes parcourt les vieilles pistes qui sillonnent le désert, s'arrêtant dans des lieux sacrés pour y célébrer les rites appropriés et chanter de vieilles chansons qui racontent des épisodes locaux de l'histoire de la création. Ils peignent sur leur corps des diagrammes schématiques représentant les pistes traditionnelles et inscrivent à la craie et à l'ocre rouge des figures tortueuses et compliquées sur des rochers sacrés. Les gens disent que c'est l'énergie spirituelle contenue dans les rochers qui crée la pluie, fertilise les plantes et féconde les animaux, et que leurs peintures et leurs chansons ne sont qu'un simple stimulant. Un grand nombre de ces repères sont parfaitement connus et facilement identifiables d'après les vieilles descriptions qui en sont faites dans les chansons et les danses, et d'après les représentations imagées que l'on trouve sur les tables sacrées. Les jeunes initiés, avec leur savoir tout neuf, vont directement dans le désert et découvrent sans aucune aide les trous d'eau, les arbres, les collines et les alignements de rochers qui représentent des signes particuliers. Pour eux, chaque objet naturel est le corps ou la possession d'un être sacré ancien, qui vit encore spirituellement et influe sur le présent. Lorsqu'ils le voient et le reconnaissent, cela renforce leur lien avec la terre et suscite chez eux une grande satisfaction émotionnelle. Et enfin, pour finir cette rubrique environnement, la recette éco-geste pour vous et pour faire plaisir à vos proches. La recette pour confectionner un nettoyant dégraissant surpuissant pour nettoyer son barbecue pour environ 50 centimes les 500 millilitres. Dans un récipient, versez 500 millilitres d'eau chaude, 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, 2 cuillères à soupe de savon noir, laissez fondre, mélangez avec une cuillère, versez le liquide dans un flacon équipé d'un spray. C'est prêt! Vous pouvez dès à présent nettoyer vos grilles de barbecue avec ce produit. Je répète, 500 ml d'eau chaude, 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, 2 cuillères à soupe de savon noir. Mélangez, c'est prêt, pulvérisez, laissez agir 5 minutes, nettoyez à l'éponge, c'est propre. Vous pouvez bien sûr garder le reste du liquide pour une prochaine fois.
Les allumeurs de réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbère.
Licenciement pour motif personnel. Version en vigueur au 1er avril 2022. Chapitre 2. Licenciement pour motif personnel. Section 1. Cause réelle et sérieuse. Article L1232-1. Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier. 31 janvier 2025, Direction de l'information légale et administrative, Premier ministre. Le salarié peut contester le motif de son licenciement. Pour cela, il doit saisir le conseil de prud'homme. Le juge peut remettre en cause un licenciement pour motif personnel. Le juge peut décider que le motif du licenciement n'est pas valable. Dans ce cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le juge peut décider que le licenciement est irrégulier lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Le juge peut annuler le licenciement lorsque celui-ci est interdit par la loi. Dans ce cas, le licenciement est nul. Les cas de nullité du licenciement annulé par un juge prévu par la loi sont notamment les licenciements prononcés dans l'une des situations suivantes. En raison d'une discrimination, en violation d'une liberté fondamentale, droits primordiaux visant à protéger le salarié dans son emploi contre les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, liberté d'expression, liberté syndicale, liberté religieuse, droit de retrait du salarié, en lien avec l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur, en cas de refus par le salarié d'une mutation géographique dans un pays incriminant l'homosexualité en raison de son orientation sexuelle, pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit, acte interdit par la loi et puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans, ou d'un crime, infraction la plus grave punissable par une peine de prison, viol, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple, dont le salarié aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à l'encontre d'un salarié lanceur d'alerte, en raison d'une action en justice en matière de discrimination, en raison d'une action en justice en matière d'égalité homme-femme, à l'encontre de victimes ou de témoins de faits de harcèlement moral ou sexuel, sauf mauvaise foi du salarié, sans respecter la protection liée à la maternité ou à la paternité, sans respecter la protection liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, sans respecter la protection accordée à certains salariés, membres du CSCE, Comité social et économique, en méconnaissance de l'exercice du droit de grève, contre un salarié ayant témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, sans respecter la protection liée au décès de l'enfant de moins de 25 ans, sans respecter la protection liée au décès d'une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet Vie publique. Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.
C'est beau ça, maman.
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de Jet FM ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical, Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.